Alors, en fait, cette phrase, elle est sculptée en lettres de béton majuscules et elle est posée à même le sol. Donc, cette typographie est une Helvetica Neue, donc c'est une typographie de journal. Et en fait, elle est, donc cette phrase date de 2014. Elle est extraite d'un journal. Ça fait la une d'un journal, même de plusieurs journaux, suite à la catastrophe du MH370. C'est cet avion qui a disparu dans le golfe de la Thaïlande.
Oui, c'est la Malaysia Airlines. De la
Malaysia Airlines, voilà, exactement. Donc,
avion qui a disparu 8 mars 2014. Voilà, au-dessus du golfe de Thaïlande, hein, et qu'on n'a jamais retrouvé.
Et qui n'a jamais été retrouvé. Donc là, ça fait, en effet, sur cette sculpture a été taillée, on va dire, un peu à vif, dans le sujet de la disparition. On ne savait pas où était l'avion à ce moment-là, et il se trouve qu'il n'a toujours pas été retrouvé. Donc ça reste...
Comment a-t-on su l'existence de cette phrase ?
Alors, ça a été la dernière phrase prononcée par le pilote ou le copilote du VMH. Et je trouvais que c'était quelque part...
Avant, la disparition des radars.
Voilà, hein, c'est ça.
Voilà.
Donc, c'était finalement la dernière trace de vie et en même temps, cette espèce de disparition. Elle provoque en même temps un effet de vie, tout va bien, et en même temps, il ne se passe plus rien et tout disparaît. Donc, mm-hmm. C'est ce moment de la disparition qui m'intéressait. Ce basculement, en fait, presque dans le néant, mm-hmm. où on ne sait pas ce qui se passe.
Qu'est-ce qui vous a déterminé à la réaliser en béton ? Parce qu'en fait, c'est, ça aussi peut-être est assez spécifique à l'œuvre elle-même aussi. Hein, parce qu'il y avait d'autres matériaux possibles. Après tout, ce qu'on attend la plupart du temps pour des lettres, si on se réfère à l'histoire, c'est peut-être plutôt le bois. Hein, puisqu'il y a une référence avec l'imprimerie ou le plomb. Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous a amené sur le béton ?
Alors au départ, c'était une contrainte technique. Cette phrase a été réalisée pour un lycée, dans le cadre d'une résidence. Donc l'avion venait de disparaître et il fallait que je réalise une œuvre in situ. Donc j'ai pensé à matérialiser cette phrase et le béton me semblait, d'une part, avait cette forme de brutalité que je trouvais assez belle. Et qui pouvait résister donc aux intempéries et aussi peut-être aussi pouvait évoquer la brutalité justement de cette disparition. Il y avait quelque chose de l'ordre peut-être du coffrage ou presque de la stèle, de la pierre tombale, je sais pas, cette matière je l'ai tout de suite associée à peut-être quelque chose de mortuaire.
Oui, voilà. Puisqu'à même temps, voilà. Effectivement, c'est une signalétique de disparition, comme vous le disiez tout à l'heure.
C'est ça.
Et ça a effectivement un lien avec la pierre tombale.
Oui.
On s'entend bien. Bien que quand on voit cette phrase, ce n'est que le béton et cette couleur grise hein, qui est évocatrice de ce que vous dites, parce que sinon, on dirait quand même quelque chose qui relèverait plutôt de l'univers de la bande dessinée, de quelque chose qu'on va voir apparaître dans des bulles et qui a un côté un petit peu comique, en tout cas un petit clin d'œil aussi. Hein.
Oui, c'est ça, il y a quelque chose, il y a une forme qui est assez ironique aussi au final. Moi, je me suis dit peut-être dans le temps, cet avion, je ne sais pas pourquoi, j'espère un jour qu'on le retrouvera, mais j'ai eu la sensation sur le moment qu'on ne le retrouverait jamais, que ça serait vraiment une sorte de mystère de l'aviation contemporaine. Et je me suis dit qu'elle ferait peut-être, elle serait peut-être une réplique de film, en fait, cette phrase. Que d'un coup elle allait être.
Oui, il y a eu Lénine.
Voilà.
Là, on peut bien avoir.
C'est ça, il y a eu.
Cette phrase-là.
Oui. Donc il y a vraiment ce basculement en fait.
C'est vrai que ça rappelle, alors c'est beaucoup plus petit en caractère, mais ça rappelle quand même, c'est vrai, les lettres qui dessinent, les lettres de Hollywood.
Oui. Hein, c'est ça.
Donc il y a peut-être un petit peu ce côté, mais c'est plus petit de. Oui. De taille.
Oui. Hein,
puis c'est posé au sol, donc ça n'a pas un côté envahissant.
Voilà. Hein.
Comment vous avez été amené, parce qu'effectivement, oui, vous l'avez réalisé au cours d'une résidence au lycée Docteur Lacroix à Narbonne.
Oui,
comment vous avez été amené à choisir cette phrase-là ? Est-ce qu'il y avait un rapport, je veux dire, avec les lycéens ? Est-ce qu'il y avait, vous m'avez dit, œuvre de commande ? Est-ce qu'il y avait un impératif vis-à-vis donc, du lieu où l'œuvre a été présentée pour la première fois ?
En fait, souvent dans mon travail, il y a cette question d'urgence, d'actualité. Je pense qu'il y a un moment, je vais peut-être réutiliser quelque chose de l'actualité et le redonner à voir différemment. Et là, c'était au moment de cette disparition et je me suis dit, il faut que ça existe, il faut que ce soit matérialisé. Et je trouvais que dans ce contexte du lycée, c'était d'autant plus intéressant que les élèves, quand ils passaient devant la phrase, la réactivaient. Donc, ils répétaient sans cesse « All right, good night ». Du coup, c'était une sorte de prolongement, comme ça, de cet écho face à une disparition et que peut-être que, justement, ça reste. Ça,
oui, puis ça ce reste rapport à l'instant dont voilà. On sait qu'il caractérise beaucoup la vie lycéenne, et finalement, c'est aujourd'hui, ça. De ces lycéens qui sont toujours dans cette activation de l'instant, puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont avec des téléphones portables, et que tout ce qui relève de cette actualité, comme ça, un peu brute, c'est ce qui caractérise aussi leur identité, quelque part. Passons peut-être maintenant à l'autre œuvre. Alors l'autre œuvre s'appelle Global Damages Reprint. Peut-être je vais vous demander d'introduire justement le titre.
Oui, hein? Donc les dommages globaux imprimés. Voilà.
D'accord. C'est une œuvre au départ que vous avez réalisée en collaboration avec Thomas Rochon.
Oui, cette œuvre est en effet réalisée avec Thomas Rochon. Donc Thomas Rochon fait partie de mon collectif qui s'appelle La Glacière. Donc on est trois, Thomas Rochon, Muriel Joya et moi-même, et on travaille régulièrement ensemble sur des projets, en duo, en trio, ça dépend des missions qu'on va nous proposer.
Bien, peut-être voilà. On va y revenir plus tard. Donc là, c'est une œuvre qui est vraiment très différente.
Oui.
Puisque elle donne l'impression, je veux dire l'impression que l'on en a, et puis vous allez sans doute, en nous donnant des explications, en creuser un petit peu ce que l'apparence nous invite à percevoir, on a l'impression que c'est une maquette de ville posée sur un socle,
oui.
Qui est constituée elle aussi de lettres, d'ailleurs,
oui.
C'est-à-dire qu'on a des blocs d'immeubles qui eux-mêmes dessinent des phrases, et d'ailleurs cela dessine finalement le titre aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça qui est dans cette maquette, hein.
Oui, exactement.
Voilà. Il n'y a pas seulement ça,
oui.
Et alors là j'aimerais bien savoir quel a été donc le protocole d'élaboration. Je rappelle que vous l'avez créé à l'occasion donc de l'époque où Mons a été capitale européenne de la culture, hein.
Tout à fait.
Donc c'est une œuvre qui a été quand même conçue dans le cadre d'un événement culturel à vocation européenne, hein. Donc déjà l'œuvre, je dirais, a vocation à dilater de manière, je dirais, plus large, ou en tout cas en s'ouvrant d'une façon qui est comparable à Bright Good Night, mais en s'intéressant à la ville, au phénomène urbain.
Oui.
Alors je vous écoute.
Donc c'est un projet qui a été donc réalisé au Café Europa à Mons, qui est un lieu qui est dédié aux cultures numériques. Et dans ce lieu, il y avait un Fab Lab, donc c'est un lieu où il y avait une découpe laser et une imprimante 3D. Donc on a réalisé un projet spécifique, Thomas et moi, pour ce lieu, puisque le temps de la résidence, on pouvait imprimer chaque jour. Donc la maquette est constituée de 25 modules imprimés. On va dire qu'un module, il faut à peu près une douzaine d'heures pour l'imprimer. Donc chaque jour, on pouvait monter un élément nouveau à la maquette, et les gens, quand ils passaient dans le lieu, voyaient la maquette augmenter. On avait vraiment cette idée de working progress.
Ça s'est fait pas à pas.
Voilà, ça s'est fait pas à pas. Exactement.
Alors comment vous avez conçu, je dirais, parce que là on voit le protocole de construction,
oui.
Mais il y avait un plan quand même, hein.
Oui.
Donc quel était votre plan ?
Donc c'est une réimpression en 3D d'une édition qu'on a réalisée ensemble avec Thomas à la Panacée, qui s'appelle Global Damages Reprint, parce que dans mes projets, il y a toujours cette histoire peut-être de ruines, c'est-à-dire on va jusqu'au bout de quelque chose, on va l'étendre. Donc le premier projet a été Global Damages, donc c'était une série de cartes postales qui retranscrivaient des impacts de météorites à emporter. Dans le cadre de la Panacée, donc l'œuvre a été exposée, on a proposé au public...
Expliquez-nous mieux cette œuvre-là, parce que vous allez vite
oui,
dessus.
Pardon.
Et je me dis peut-être que oui. Nos auditeurs ne voient pas exactement ce qu'il en est de cette œuvre-là, qui a un lien effectivement avec celle qui est exposée chez Alma.
Voilà. Donc,
cette œuvre que vous avez présentée à la Panacée.
Donc ces cartes postales donc en noir et blanc contiennent un texte qui sont issues d'un programme créé par des scientifiques anglais, ou des universitaires plus exactement, qui nous proposent de créer notre propre météorite et de l'envoyer sur la Terre. Donc on peut créer une fin du monde. Et cette fin du monde est retranscrite sous la forme de texte. Donc c'est ce texte que j'ai extrait. Donc on peut créer plusieurs météorites qui peuvent aller d'un tout petit dommage à vraiment l'explosion totale de notre planète. Ça a été fait dans des conditions très sérieuses, de mesures scientifiques. Et ce que je trouvais assez beau dans ce projet, c'est que finalement, la fin du monde avait quelque chose de littéraire. La fin du monde est sans cesse... on n'a pas d'image. En fait, c'est une prédiction qui est sans cesse repoussée et qui est très littéraire. Donc ces cartes postales, finalement, c'était une manière de proposer un jeu de plusieurs fins du
scénario,
monde, un scénario possible
de catastrophe.
Et le format carte postale était aussi assez ironique parce que finalement c'est l'inverse opposé d'un paysage idyllique qui est proposé sur la carte postale.
Oui, donc on avait la vision, enfin, disons que la relation que vous établissiez avec l'histoire de l'art, c'était effectivement ces fameux paysages de ruines qui ont envahi les tableaux et qui étaient des fosses ou des vraies ruines d'ailleurs, parce que c'était complètement recomposé, ces paysages dans la campagne, dans lesquels on plaçait des ruines comme étant des éléments de culturel, de mélancolie, de promenade mélancolique dans les paysages du XVIIIe siècle.
Oui.
Et puis après, c'est resté effectivement comme un élément symbolique du rapport au passé chez les romantiques.
Au passé, c'est vrai que la ruine, elle contient trois temps. Elle contient à la fois le souvenir, elle évoque le souvenir, elle évoque le présent, l'état actuel de l'architecture qui n'est plus, et peut-être un futur aussi, je crois. Là, ces trois temps-là, la ruine. Et je trouve ça,
futur, qu'est-ce que vous entendez par là?
Elle va sûrement perdurer. Elle nous dépasse dans le temps, c'est-à-dire que nous, on ne sera plus là, que la ruine continuera à exister.
Elle nous dépasse déjà.
Parce
que parfois, les ruines sont plus âgées que nous-mêmes, en fait.
Potentiellement, elle traversera le temps. Le temps sous cette forme-là, c'est-à-dire que cette architecture de départ est finalement... a été dégradée ou s'est dégradée avec le temps, et presque elle est plus rassurante au final. Elle a cette image...
En tout cas, elle est entachée, elle est auréolée de l'attachement culturel, de ce qu'elle représente, des origines d'une civilisation, par exemple. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, s'agissant de certaines destructions de beaux bâtiments en Syrie.
Exactement.
Bref, donc ça c'était pour effectivement mettre en évidence votre goût pour les ruines, et donc en revenir au lien qui est établi avec la pièce que vous présentez chez Alma, mais qui n'est pas un paysage de ruines alors.
Voilà, c'est une sorte d'état des lieux, peut-être de ruines de cette édition donc globale d'Images Replay, qui a été éditée en partenariat avec la Panacée, dans une résidence où finalement on a proposé au public de rejouer cette idée de la carte postale et cette idée de fin du monde. Donc on a eu des propositions et en même temps on a proposé à des scientifiques, intellectuels de répondre à cette question de la fin du monde. Donc on a eu toute une batterie de réponses qu'on a éditées. Et on a mélangé donc des données de ces cartes postales, les réponses de ces personnes, et ça crée un recueil comme ça de fin du monde. Et finalement, cette maquette, c'est aussi, on est allé au bout du projet, on a repris des éléments de cette édition et on a compacté comme une sorte de ruines, enfin de
pas pour de matérialiser ruines, matérial, par un objet.
Exactement, matérialisé par un objet.
Toute la réflexion qu'il y avait autour de
c'est ça.
Ruines.
Sceller ces deux premières étapes et venir à une sorte de paysage du coup tangible, puisque avant on était dans l'écriture avec les cartes postales et l'édition, et là on revient dans une sorte de matérialité.
Oui, concrète,
figée, fixée, voilà.
Oui. Mais revenons-en à l'œuvre là que vous exposez chez Alma et que vous avez réalisée pour le café Europa à Mons. On n'a quand même pas la sensation, quand on regarde cette maquette, d'être dans un paysage de ruines. On a l'impression d'être devant la maquette d'une ville en devenir.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a une potentialité en fait. On a vraiment extrudé certaines parties des mots, certaines parties d'un impact de catastrophe pour arriver à une sorte de construction finalement. Voilà, on a...
C'est-à-dire, comment se sont calculées la hauteur des édifices? Parce qu'on voit bien que chaque édifice dessine un des éléments de l'être, donc on voit bien que, d'ailleurs, on peut enlever certains des modules de ces immeubles, et on voit qu'en dessous, il y a une carte qui correspond à l'élévation de cette construction qui la domine, qui se trouve en surplomb, comme un cube qui serait posé sur un plan. Il y a comme une espèce de plan à partir duquel s'élève cet édifice. Et qu'est-ce qui a régulé la hauteur ? Voilà.
Alors, on va dire qu'il y a des données scientifiques, qui est une espèce de base sous-jacente, où on a voilà, toute cette régularité comme ça, où on a une base de la catastrophe. Et là vient se greffer ce global damages replay, qui était le nom de cette édition, où finalement on a eu des réponses et où d'un coup ça s'est élevé en réflexion.
C'est en fonction du voilà. nombre de réponses et
voilà, exactement. Voilà.
C'est-à-dire que finalement c'est une maquette dont à première vue on croit que c'est une maquette de ville, tout simplement, avec une intention très précise, régulant la hauteur des édifices en fonction d'autres édifices, comme ça se passe aujourd'hui, où beaucoup de villes construisent effectivement dans la façade apparente de tout ce que la ville évoque, des édifices très hauts, puisque c'est pour ainsi dire l'image de marque de la ville. Enfin, on voit ça dans des villes en Malaisie, on voit ça dans des villes nouvelles comme celles qui sont dans les Émirats, on voit ça aussi au Japon, etc. Même à Paris, je veux dire, les grands immeubles sont là, les grands buildings sont là comme une espèce d'image de marque. C'est un projet qui est voulu par cette volonté de signer une nouvelle identité à la ville, alors qu'en réalité ce que vous proposez c'est plutôt c'est comme si la ville était construite, pensée à partir du degré d'investissement des gens.
Oui, et de certains mots qui évoquent la catastrophe, qui sont plus ou moins forts, de degrés, d'impact, de données scientifiques, une espèce qui crée une sorte de base de la ville. Mmh. Un petit peu comme peu de temps après, c'est assez drôle, je ne sais pas, mais il y a eu, il y a eu un anniversaire, ça a été Hiroshima, la catastrophe d'Hiroshima, où on a tous cette vision du champignon et de cette ville qui est ravagée. Et moi, il y a quelques années, je suis partie au Japon, je suis allée à Hiroshima, j'ai vu cette ruine qui reste, qui perdure. Et Hiroshima, c'est une ville qui est extrêmement moderne. On a les Occidentaux, je pense, une vision comme ça un peu figée dans le temps d'Hiroshima, une ville rasée, et qui est tout à fait contemporaine, moderne, avec de très grands bâtiments. Donc il y a cette idée aussi peut-être de la reconstruction des choses.
Mmh, dans cette pièce aussi. Oui. Hein. Alors je voudrais maintenant qu'on élargisse un petit peu le regard, parce que là on a seulement deux pièces qui ont effectivement bien leur valeur, ce qui va nous permettre, je pense, d'élargir un petit peu le regard à d'autres œuvres de votre part. C'est que le titre même de l'exposition, hein, c'est Sky News, c'est-à-dire des nouvelles du ciel. Et donc je me demandais déjà, qu'est-ce qui vous avait amené à donner ce titre, puisque finalement aucune des deux pièces ne donne directement des nouvelles du ciel, même si celle qui a l'air d'être le plus près de l'évoquer, c'est justement la première, hein, celle qui fait référence, donc je le rappelle, All Right, Good Night, à la dernière phrase prononcée par ce pilote du vol MH370 de la Malaysia Airlines, donc disparu le 8 mars 2014, mais enfin néanmoins, il est plutôt en train de donner des nouvelles de la disparition plutôt que des nouvelles du ciel, d'après ce que nous avons entendu. Donc, enfin, tout ça pour dire que tout d'un coup, je m'interroge sur la raison pour laquelle vous avez voulu donner ce titre.
Alors, ce titre, donc c'est Marie-Caroline Alermat qui l'a proposé. C'est un. Voilà, on a regardé ensemble, évidemment, plusieurs possibilités. Et je pense que. Voilà, ce MH qui a disparu, on aurait tendance à regarder vers le ciel, et cette météorite qu'on pourrait fabriquer, on l'attendrait du ciel aussi. Donc il y a cette histoire de regarder en l'air quelque chose qui va se produire. Voilà, je pense que ça vient de là en fait.
Et en même temps, ouais. C'est peut-être aussi un regard qui est orienté vers l'infini,
oui.
Hein, qui opère un renversement de la vision, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à regarder vers l'horizon, hein, donc... de manière horizontale, vu la posture verticale de l'homme, hein, lever la tête a déjà des significations qui sont plus éloignées, on va dire, des préoccupations contemporaines. Je pense que lever la tête vers le ciel, ça remonte à des choses très archaïques, aux premières façons de considérer l'environnement qui a débouché sur l'astronomie. Qui est une des plus vieilles sciences qui existent dans notre monde. Donc, C'est un renversement, en même temps un retour en arrière. Il y a quand même quelque chose comme ça, quoi.
Oui, et puis dans l'astronomie, ce qui est assez fabuleux, c'est que finalement, on va regarder une étoile, on a l'impression de regarder en avant, mais en fait, on fouille dans le passé. Et c'est assez merveilleux de regarder en avant et en même temps de remonter le temps. Voilà.
Alors ça, c'est bien parce que vous m'amenez directement, vous me faites la transition avec une pièce avec laquelle j'avais envie de discuter avec vous. C'est une pièce qui a été produite donc lors d'une résidence d'artistes à la cité scolaire Paul-Valéry Hassett, en partenariat avec le CRAC, Centre Régional d'Art Contemporain, et qui donc s'intitulait Time Capture, capture du temps, hein, capter le temps, s'emparer du temps, qui a donc débouché sur une installation in situ de dimensions comparables à celle de la sculpture en béton dont nous parlions tout à l'heure, puisque c'est une installation qui mesure 450 cm de longueur sur une hauteur de 70. Là, il s'agit d'autre chose, hein, ça n'est pas de reproduire une phrase, hein, les lettres d'une phrase, d'en faire les éléments d'une sculpture, mais il s'agit de tirages photos. Alors là aussi, des tirages photos très particuliers.
Oui. Alors, dans cette installation, j'ai voulu cartographier en quelque sorte le ciel du début de la journée, donc du lever du soleil au coucher du soleil. Donc l'idée, c'était de prendre des photographies à intervalles réguliers du ciel au zénith et pour en vérifier les différents bleus. Donc chaque photographie est prise, donc l'intervalle, je ne me rappelle plus exactement, ça doit être 5-6 minutes, pas sur les levées et les couchers du soleil qui étaient plus rapprochés, parce que c'est vrai qu'en effet le ciel
ça va très vite,
ouais, plutôt ouais. Les bleus de l'après-midi qui sont peut-être un peu plus étirés. Donc ces bleus du ciel ont été redimensionnés à des bandes de 1 cm et ont été assemblés sur la longueur de la journée, ce qui fait ce grand tirage. Donc tout est assemblé sans interruption.
Ce que vous voulez dire, alors attendez, hein, parce que c'est quand même très minutieux ce que vous faites, et en même temps il faut qu'on se représente les choses. Ce que vous voulez nous dire, c'est que la bande qui est constituée et qui fait donc 70 cm de hauteur pour 450 de longueur, reproduit une journée.
Voilà. Alors il
rassemble les photographies, voilà, que vous avez prises sur
c'est
une
ça,
journée.
Exactement.
Et qui sont toutes alignées l'une à côté de l'autre.
Voilà, exactement. Hein?
Voilà. Alors on a, ça c'est assez beau d'ailleurs, je dois dire, bon je ne l'ai pas vu en réalité, mais j'ai vu l'image qu'on peut en voir sur votre site, auquel j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller voir. C'est un grand tableau, en fin de compte, avec un spectre coloré qui met en évidence des bleus. On a dans l'histoire des artistes qui se sont intéressés au spectre des couleurs, mais pas du tout d'une manière monochrome. Est-ce que vous aviez une idée derrière la tête autour de ça, ou pas, ou est-ce que ça vous intéresse aussi de vous situer par rapport à tout ce travail de maître étalon, parce que je pensais à ce travail d'étalonnage aussi comme ça, de spectre coloré qu'a fait Marcel Duchamp, ou à d'autres artistes, par exemple Richter a aussi beaucoup travaillé, mais lui c'est sous forme de petits carrés. La question de la de l'évolution du spectre des couleurs dans un arc-en-ciel, etc. Est-ce que vous aviez un regard par rapport à ça, ou en même temps est-ce que de faire référence à ces œuvres-là vous amène à dire plus sur cette œuvre encore?
Alors il y a cet artiste anglais qui faisait du paysage. Guy Dampartage, comment il s'appelle, zut, du 19e, oh là là, j'ai oublié, Turner, mais bien
ah,
sûr,
voilà,
William,
oui,
de
oui.
William Turner, qui a donc fait ces paysages incroyables et ces couchers de soleil, mais vraiment presque mystiques, avec des couleurs pas possibles. En fait, il a été, à son époque, contemporain de l'éruption d'un volcan, le Tambora, en Indonésie, qui a plongé une partie de la terre dans une sorte de nuage de cendres qui a, au, qui a sévi au-dessus de la Terre pendant presque un an, je crois, donc il n'y a pas eu d'été à ce moment-là. Et en même temps, donc, ça a modifié le spectre des couleurs, et donc, sur des couchers de soleil ou des levées de soleil, ce nuage de cendres a fait apparaître des couleurs telles que le rouge ou le vert. Mmh. Je trouvais ça assez fabuleux, c'est qu'il a peint une sorte de phénomène météorologique, sans le savoir, dans ces paysages sont apparues ces données scientifiques et qui ont fait la particularité de son travail.
De son travail, oui, tout à fait. C'est intéressant ce que vous dites, parce que pendant longtemps, on a signalé l'œuvre de Turner comme étant celle d'un impressionniste, d'un pré-impressionniste, et en réalité, c'est quelqu'un qui est, alors tout à fait étrangement, plus réaliste que ce qu'on pourrait l'imaginer.
Exactement.
C'est nous qui projetons effectivement sur ce qu'il a vu une autre dimension que ce qu'il était au départ.
Voilà. Hein? Et donc il y a une étude réalisée récemment. Les scientifiques ont envoyé un peintre dans le désert avant le passage d'un nuage de cendres. Donc il a peint son coucher de soleil et le lendemain, donc il y a eu ce fameux nuage de cendres qui est passé. Il a repeint son coucher de soleil et sont apparues les mêmes couleurs que chez Turner, donc ce rouge et ce vert qui sont spécifiques à ce travail de paysage. Voilà.
Donc il y avait ça dans votre imaginaire en tout cas déjà.
Voilà, il y a quelque chose qui a guidé cette lecture du ciel.
En même temps, ce que vous faites, vous, c'est quand même plutôt de l'ordre de... Enfin, disons qu'il y a un point commun, bien entendu.
Oui.
Et en même temps, vous êtes beaucoup plus, je dirais, à faire un enregistrement sur 24 heures des variations du ciel. Ça a quelque chose, je dirais, de moins extraordinaire à première vue.
Oui.
Hein? De plus patient, on va dire. Hein? C'est comme si cette œuvre-là était aussi un moyen de... De faire comprendre ce que c'est que l'écoulement du temps.
Une tentative.
Hein? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre. Hein?
Oui, il y a cet ordre, ce temps qui passe, qui s'étire, qui se transforme, qui est peut-être visible et en même temps invisible. Donc, essayer de matérialiser quelque chose de complètement invisible.
Donc là, bien des nouvelles du ciel.
Bien des nouvelles du ciel.
C'est sûr, bien des nouvelles du ciel. Du ciel pendant une journée. Hein? Bien. Alors, il y a une autre œuvre aussi que j'aime bien et qui va nous donner des nouvelles du ciel d'une autre façon. On l'a dit à un moment donné, vous aimez bien opérer des renversements de vision, c'est-à-dire que évidemment Sky News nous oblige à lever les yeux vers le ciel alors que nous les avons finalement la plupart du temps tournés vers la Terre. Et c'est une œuvre qui s'intitule Anamnèse, que vous avez présentée dans la cour du Palais des Archevêques à Narbonne en 2014, et qui est constituée, vous allez nous raconter tout ce que cette installation permet de voir, qui est constituée de 25 modules de plexi-miroir disposés sur une rangée de chevrons en marbre qui constitue le pavement donc de la cour du Palais des Archevêques.
Oui, donc cette œuvre a été réalisée en 2014 et en effet, elle reprend ce motif au sol. Donc le palais d'archevêque, la cour est constituée de chevrons en marbre rouge et en marbre noir, il me semble. Donc ça reprend le pavement, comme ça, le rythme d'un des motifs du sol.
Initial du sol.
Initial du sol, donc c'était dans le cadre d'une œuvre in situ. Il fallait évidemment réaliser quelque chose en lien profond avec le lieu, et voilà, c'est ce que je trouvais assez beau dans cet endroit, c'est que ça mélangeait, donc c'est une cour carrée ouverte avec une architecture qui est très présente, et en même temps on a cette présence du ciel qui est presque comme un recadrage de la réalité, quoi, une sorte de peinture, on lève la tête, on a ce cadrage du ciel qui est très beau, donc j'ai voulu le mettre à l'honneur, et donc mettre ces plexi-miroirs qui reflètent en même temps l'architecture, on peut se promener le long, et en lézardant justement, enfin en suivant cette faille, parce que c'est presque une sorte de faille qui ouvre sur le ciel et en même temps qui ouvre sur l'architecture du lieu. Donc en se promenant, on découvre à la fois ce ciel et à la fois cette architecture d'une manière nouvelle.
Oui, et puis c'est un découpage du ciel.
C'est un découpage du ciel.
C'est un autre découpage du ciel. Hein. Finalement, il y a un point commun entre le time capture de Seb, oui, dont on a parlé précédemment, qui donc l'enregistrement de ces photographies prises du ciel sur une journée. Et puis là, cette autre façon d'avoir des nouvelles du ciel, cette fois-ci découpée selon les zigzags qu'opère donc le pavement en chevron, hein, le pavement en marbre, épousant la forme des chevrons au sol. Et donc finalement, la relation que vous avez avec le ciel est chaque fois une relation qui a quelque chose à voir, soit avec cheminement, soit avec une disparition, soit avec l'humain, parce qu'on voit beaucoup que quand même, malgré tout, en dépit du caractère assez, on va dire comme ça, radical, du béton, ou du miroir, ou de cette réalisation globale d'hommage, hein, qui est donc qui est constituée de volumes découpés au laser, donc là aussi il y a quelque chose d'extrêmement froid, je dirais, on est en fait en plein dans une réflexion qui nous amène du côté d'un rapport assez littéraire aux choses, hein, et un rapport humain aussi, les deux essayant d'avoir un lien, finalement il y a un lien entre les deux choses, tout en étant formulé d'une manière extrêmement radicale, extrêmement, je dirais presque austère, et en fait derrière cette austérité, on a toute cette histoire. Donc je pense que là il y a une chose que peut-être sur laquelle vous pouvez nous dire un peu finalement. C'est assez paradoxal, quoi. Est-ce que vous avez une réflexion autour de ça?
Oui, il doit y avoir des contradictions humaines là-dedans. En effet, essayer d'être en même temps, j'imagine mon travail assez minimal, assez peut-être élégant comme ça, une forme assez, assez fine, presque de l'ordre de l'inframince. Parfois, dans certaines installations, en tout cas in situ. Et en même temps, c'est vrai que la figure humaine n'est absolument pas représentée et c'est une préoccupation qui est permanente. Alors je dirais que c'est peut-être la place du spectateur qui est omniprésente, c'est-à-dire que c'est le spectateur, en tout cas le regardeur, qui va faire l'œuvre.
Bien entendu.
Voilà.
Bien entendu. Mais en même temps, je pense qu'elle est inscrite dans ce qui, comment dirais-je, véhicule votre façon de concevoir les choses. Vous dites, vous venez de le dire, avec élégance et en épousant beaucoup les concepts du formalisme minimal, vous dites des choses qui ne sont pas du tout de l'ordre de la disparition de la subjectivité. Les minimalistes, ils avaient quand même l'envie de faire disparaître le sujet au sens de la subjectivité. Et vous, au contraire, vous utilisez ce mode formel pour parler de la subjectivité, pour parler de ce qui est, je dirais, de l'ordre de la fiction. Et de la fiction ayant un lien avec ce qui révèle l'humain dans sa quête de l'absolu, dans sa quête du ciel, hein, ou dans sa quête d'un cheminement possible dans le temps. Enfin, Time Capture même peut s'entendre de deux façons. Le titre suggère, je dirais, tout un imaginaire qui est du côté de la littérature, comme une recherche du temps perdu, comme le temps retrouvé. Enfin, je pense à Proust tout d'un coup, mais ça me paraît relever de la même, je dirais, subjectivité, en tout cas, que vous traitez avec beaucoup de radicalité, de minimalisme, quoi. Simplement d'enregistrer le ciel, oui, d'accord. Mais enfin, bon, après, ce qu'on obtient, c'est quand même une carte de la journée, une carte de l'écoulement du temps, une carte de l'imprévu, une carte du hasard, une carte du hasard et de pas du hasard en même temps, parce qu'à un moment donné, on n'enregistre plus de photographie quand il n'y a plus de lumière, enfin, on a tout ça, quoi. Il y a beaucoup d'éléments qui relèvent de l'humain.
Alors c'est tout à fait, je me suis jamais vraiment posé la question, pour être très honnête, donc cette discussion permet peut-être de mettre le doigt sur un nouvel élément.
Vous m'avez parlé à un moment donné de l'élément qui vous avait le plus, je dirais, frappé au départ. C'était les aventures du baron de Munchausen.
Oui.
Vous m'avez parlé de ça. Et rappelez-nous un petit peu comment ça s'était passé, cette relation avec cette histoire, parce qu'elle dit beaucoup de choses aussi, je trouve.
Donc le baron de Munchausen, c'est ce fameux baron allemand, le baron des cracks, qui est mythomane et qui raconte des aventures extraordinaires qui n'ont sûrement jamais eu lieu, mais en tout cas qui ont fait l'objet
de... beaucoup ne peuvent même pas avoir lieu.
Mais qui a fait l'objet de nombreux romans, films et rééditions. Je crois que c'est un baron extrêmement populaire.
Oui, c'est dans l'esprit des merveilles. Ça fait partie de ces mythologies, je dirais, qui sont parmi les plus répandues, hein, Et c'est quelqu'un dont tu travailles la question de la fiction.
Et de l'imaginaire.
Et de l'imaginaire.
Oui, c'est
donc
vrai.
C'est quand même ça qui a été le fil initial, c'est le début de la pelote qui se déroule. Quoi.
Oui, c'est vrai, il y a ces éléments de fiction qui se glissent sans cesse qui rentrent dans une réalité et que je trouve assez gonflée au final et qui donne envie de découvrir le personnage du baron Munchausen.
Voilà, oui.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'aventureux.
Voilà, oui. Donc c'est-à-dire que vous, les choses que vous présentez, finalement, il faut un petit peu creuser ce que se passe, ce qu'elles disent, ce qu'elles supposent, et même la maquette de Global Dommage. Vous n'en faites pas mystère de cette intention, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il faut enlever les petits cubes.
Oui.
Qui sont donc reproduisent les immeubles en trois dimensions, hein, et puis on voit en dessous la carte à partir de laquelle cet immeuble est justifié dans cette dimension, de sa hauteur, etc. Donc faites pas mystère de ce côté humain qui se trouve derrière et qui est, je dirais, toujours pensé par rapport à une procédure très scientifique et dont vous donnez quelque chose qui n'est pas du tout scientifique. Ben, je veux dire que votre image du ciel comme ça, là, du temps de capture, même si elle part d'une observation qui serait guidée par quelque chose qui est d'origine scientifique, n'aboutit pas à quelque chose qui est de nature scientifique. C'est plutôt quelque chose dans lequel il y a beaucoup de vous-même, et il y a beaucoup donc du coup de subjectivité.
Oui, la rigueur est de toute façon impossible, parce que l'appareil photo va prendre une photo d'un ciel qui n'existe pas, ce bleu n'existe pas, donc on capte quelque chose qui... on capte une image.
Mmh. Voilà. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Est-ce que vous êtes sur un projet particulier, ou bon, que vous aimeriez développer ou pas, hein?
Alors... justement, je lis en ce moment ce livre, enfin, j'ai commencé la préface d'Esthétique des ruines, poétique de la destruction, et j'essaye de mettre un peu des mots sur mon travail, de documenter, chose que je n'avais sûrement pas faite avant puisque j'étais dans le feu de l'action. Donc j'essaye de prendre du temps et du recul à la réflexion en ce moment. Mmh. Voilà. Mmh.